Est-ce que vous croyez que Dieu va nous parler ce matin au travers de sa parole ? Ça va me rassurer parce que mes notes, en fait, elles sont là-bas. Ce que j'ai préparé cette semaine, je l'ai laissé là-bas parce qu'avec ce qu'on vient de vivre ce matin, j'avais envie de vous parler d'autre chose. Quelque chose que je n'avais pas spécialement préparé, alors vous ne m'en voudrez pas si c'est un peu décousu. J'ai essayé de me noter quand même quelques références pendant qu'on terminait ce temps de louange. Mais je pense que Dieu avait un autre sujet plus important à nous parler ce matin. Il a déjà perturbé un petit peu le déroulement, puisque, comme Luc l'a dit, normalement c'est Élodie qui devait faire chanter. Il y avait une certaine liste de chants qui avait été préparée, puis au dernier moment ça a été un peu bouleversé, le contenu des chants a changé. Et je pense que du coup la prédication aussi. Et j'aimerais commencer ce temps avec vous en lisant quelques versets dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. On va lire les versets 1 à 4. C'est un récit que la plupart vous connaissez très bien, celui de la Pentecôte. On va se concentrer juste sur le début de ce récit. Donc Actes des Apôtres, chapitre 2. Et on va lire du verset 1 jusqu'au verset 4. Voilà. À partir du verset 1, s'il te plaît. Voilà. Donc quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce passage, comme j'ai dit, pour la plupart, vous le connaissez bien. On l'a déjà lu un certain nombre de fois, et puis même, il est assez central au milieu la conviction de la profession de foi de nos assemblées, puisqu'on est une église qui est dite pentecôtiste, qui croit vraiment au baptême du Saint-Esprit, à ses manifestations. Et donc, ces versets reviennent régulièrement dans nos réunions, mais ce matin, j'avais envie de revenir dessus, de se repencher un petit peu dessus, sur ce qui s'est passé ce jour-là. Lorsque les disciples étaient rassemblés dans un même lieu, il nous est dit qu'ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, on utilise parfois plusieurs images différentes. D'ailleurs, quand on l'a chanté tout à l'heure, qu'on a chanté « Viens Saint-Esprit », on a utilisé les images du feu, du vent, de la pluie. On a parlé d'une rivière. Et toutes ces différentes images, elles sont assez complémentaires. Quand on parle de ce baptême de feu, là, on pense souvent plus particulièrement à cette expérience précise des disciples, puisqu'ils étaient dans la chambre haute, et puis là, qu'ils ont vu des langues de feu au-dessus de chacun, puis qu'il y a eu ce vent qui a soufflé, et on voit surtout un baptême de puissance. On voit qu'ils se sont mis à parler dans d'autres langues qu'ils ne connaissaient pas. On voit qu'ils ont pu évangéliser, qu'ils ont pu parler à tous les juifs qui étaient rassemblés là pour la fête de la Pentecôte, qui venaient un petit peu des quatre coins de l'Empire romain, et qui ne parlaient pas tous forcément les mêmes langues. Et là, poussés par le Saint-Esprit, ils ont été poussés à agir, poussés à manifester quelque chose. Mais moi, j'aime bien aussi quand on se penche sur cette vision du baptême du Saint-Esprit, où on est plongé dans cette rivière, comme on l'a chanté encore. On l'a évoqué dans plusieurs chants, cette image de la rivière qui représente le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, quand on lit dans l'épître, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, donc 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 12 et au verset 13, l'apôtre Paul utilise utilise cette image-là du baptême. Lorsqu'il dit, en effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Baptiser, vous le savez, on le répète à chaque fois qu'on a des baptêmes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plonger. Il y a souvent cette image que lorsqu'on est plongé dans l'eau, pour le baptême le plus classique, on va dire, il y a cette image d'être transformé par ce baptême, parce qu'on meurt à nous-mêmes pour ressusciter d'une manière figurée. Bien sûr, on n'a pas de cadavre à récupérer au fond du baptistère à la fin, mais intérieurement, c'est ce qui s'est passé. Oh, pas au moment du baptême non plus. En général, le baptême, c'est simplement la manifestation après coup de ce qui s'est passé déjà dans notre cœur à l'avance. C'est pour ça que à chaque fois, il y a un temps de préparation au baptême avant que les futurs baptisés soient amenés à être plongés dans l'eau. Le pasteur a eu le temps de s'entretenir avec eux, de vérifier que ce que représente le baptême, l'engagement qu'il va manifester, est bien déjà concret dans leur cœur, que ça s'est déjà accompli en eux. Mais il y a toujours cette image que là, lorsqu'on les plonge dans l'eau, leur ancienne vie est enterrée, ensevelie avec Christ, et lorsqu'ils ressortent, ils sont transformés. Et avec le Saint-Esprit, lorsqu'on utilise cette image du baptême, c'est un peu pareil, on est plongé dans cette eau-là du baptême, cette eau du Saint-Esprit qui nous vient de Dieu, et qui est une eau toute particulière. C'est pas simplement l'eau du robinet là, qu'on a fait couler pendant un certain temps. C'est une eau vive qui a des propriétés vraiment formidables. Il y en a un qui l'a expérimenté dans l'Ancien Testament, c'est le prophète Ézéchiel. Si vous voulez, on va lire un petit peu ce qu'il nous raconte, une vision qu'il a eue dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 47. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 12 à peu près, je pense. Donc Ézéchiel vivait un temps un peu difficile, hein, c'était la fin du royaume d'Israël, du royaume de Juda, et il a assisté à des choses difficiles, puisque lui était attaché à Dieu, et que le message qu'il avait apporté au peuple d'Israël était rarement réjouissant. À un moment, il a vu cette image du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu qui sortait du temple, et qui quittait le lieu très saint pour aller sur le parvis, puis sortir même carrément de la ville. Et puis c'est Dieu qui a abandonné son peuple. Pourquoi ? Parce que le peuple, le premier, avait abandonné Dieu, s'était tourné vers les idoles, s'était détourné complètement de la loi que Dieu lui avait donnée. Et Dieu avait prévenu au temps de Moïse, hein, voilà la loi que je mets devant vous, choisissez le bien et non le mal, la vie et non la mort, parce que si vous faites le mauvais choix, voilà toutes les malédictions qui iront avec. Et le fait que Dieu quitte son peuple et le laisse seul face à ses ennemis faisait partie des risques qui pesaient sur Israël à partir du moment où il se détournait de Dieu. Et donc, parmi les différentes visions qu'a eues Ézéchiel, il y a eu cette image de l'esprit qui quittait le temple et la ville de Jérusalem. Il y a eu aussi, vous connaissez sûrement l'image de la vallée des ossements desséchés, qui est plutôt là une image de restauration. Et puis il y en a une autre qui est assez connue, c'est celle où Ézéchiel a vu un fleuve. Donc on va le lire ensemble, Ézéchiel 47 à partir du verset 1. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple, à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Puis il m'a fait sortir par la porte nord, et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Alors, je pense sur ce que vous avez, vous avez 1000 coudées, moi dans la traduction il y a des mesures un peu plus compréhensibles pour nous, ça faisait à peu près 500 mètres. Et donc, Ézéchiel s'avance, il commence à avoir un petit peu d'eau. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres. C'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Alors il m'a dit, « As-tu bien regardé, fils de l'homme ?» Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, « Cette eau sort vers le district est, elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car l'eau où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur ses rives, depuis Enguedi jusqu'à Eneglaïm, on étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée, et il y en aura en grande quantité. » Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis, ils seront exploités pour le sel. Le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs feuilles serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. L'image qu'Ézéchiel a là lorsqu'il contemple le temple, elle est formidable. C'est cette image de l'eau qui commence à couler, là qui sort vraiment du cœur même du temple, là où se tient normalement la présence de Dieu, qui ruisselle à l'entrée du temple, qui remplit même toute la ville finalement. Et lorsque l'ange qui voit dans sa vision lui demande de s'approcher, au début on voit qu'il s'avance un petit peu, il y en a qu'un tout petit peu, avance encore plus loin, et sa conclusion à la fin, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut plus avancer. Il y en a tellement qu'il n'est plus capable lui-même de se déplacer dans ce torrent. Autant, tant qu'il y en a jusqu'aux chevilles, ça va, on peut encore résister, on ne se fait pas emporter. Lorsqu'on en a jusqu'aux genoux, bon, on peut résister, ça va. On a suffisamment d'emprise au sol pour arriver à ne pas se laisser balayer. Lorsqu'il va plus loin, que ça arrive jusqu'à la taille déjà, là, il faut lutter. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de traverser un torrent en montagne avec de l'eau jusqu'à la taille. Vous allez voir qu'en général, c'est dur. On est obligé de lutter, de se pencher pour résister vraiment à l'eau qui essaie de vous emporter. Et quand il va un peu plus loin, il dit qu'il n'a même plus pied. Là, quand on est dans un torrent et qu'on n'a plus pied, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Là, on se fait emporter. Regardez ceux qui font du canyoning, ceux qui aiment bien les sports d'eau vive. Là, c'est pas comme à la mer, on va dire, quand il n'y a pas trop de houle, à la rigueur, vous pouvez nager, vous pouvez traverser autant de fois que vous voulez la plage. Quand vous allez dans un lac, c'est pareil, l'eau est calme, vous pouvez vous déplacer en nageant. Mais un torrent, vous ne pouvez rien faire. Quand l'eau part à toute vitesse, là, et que vous n'avez plus de quoi vous accrocher, plus de quoi poser les pieds, vous êtes emporté avec. Vous êtes à la merci de ce torrent. Mais ce qui est formidable ici, c'est que ce torrent-là, il n'a pas besoin de nous faire peur. Lorsqu'on se fait emporter par le torrent, en général, c'est ça, surtout le sentiment. C'est plutôt un sentiment de crainte, de se dire que ben, je ne peux plus rien faire, je suis complètement ballotté par les eaux. Et à la rigueur, si on a le gilet de sauvetage, ça va, on arrive à rester à la surface. Mais le risque, c'est surtout qu'on se fasse entraîner sous l'eau et puis qu'on se noie derrière. Mais là, ce n'est pas du tout le risque qu'il y a dans ce torrent-là que voit Ézéchiel. Parce que lorsqu'il est arrivé à cette conclusion que je ne peux rien faire face à cette eau-là, je me fais emporter, je ne peux pas nager. Ben l'ange le ramène au bord et lui dit, mais maintenant examine un peu plus ce que représente ce torrent. Ce torrent-là, ce n'est pas une menace. Ce n'est pas quelque chose qui doit inspirer la peur au peuple d'Israël. Ce torrent-là, c'est quelque chose qui doit inspirer de l'espoir. C'est quelque chose qui doit vous apporter de la joie. Parce que lorsqu'il regarde ce qui entoure ce torrent, ce qu'il réalise surtout, c'est que ce torrent, il apporte la vie. Ce n'est pas un torrent qui va apporter la mort, comme lorsqu'on a ces grandes inondations, et vous voyez ces images à la télé de rivières qui sortent de leur lit et puis qui emportent tout sur leur passage et qui détruisent tout. Là, non. Ce torrent-là, lorsqu'il coule, il apporte la vie. C'est toutes sortes d'arbres fruitiers qui poussent sur ses rives. C'est toutes sortes d'animaux qui ont repeuplé les rives du torrent. Et ce torrent, il est tellement important et il amène tellement de vie qu'il arrive même à assainir la mer morte. Vous connaissez la mer morte au pays d'Israël. On l'appelle la mer morte. Bon, c'est un lac qui, justement, est complètement coupé de tout le reste. Il y a le Jourdain qui arrive jusqu'à l'intérieur de ce lac-là, mais après, l'eau, elle ne va plus nulle part. L'eau, elle stagne à l'intérieur, et donc tout ce qu'apporte le Jourdain lorsqu'il coule dedans, ça reste là, ça s'accumule. Et forcément, tout le sel qui est emporté par la rivière, une rivière, ce n'est pas très salé. Sauf que quand vous êtes au bout et que tout s'accumule, avec les années, ça commence à en faire beaucoup. Et l'eau de cette mer-là, elle est tellement, tellement salée, elle a tellement accumulé de sel que plus rien ne peut vivre dedans. Et là, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Ce torrent-là, il va apporter suffisamment d'eau pour diluer tout ça et redonner de la vie. Le sel, on ne le trouvera plus que dans les marais aux alentours pour l'exploiter, mais la mer morte, elle-même, elle va retrouver la vie, on va retrouver du poisson dedans. Vous l'avez vu, il va y avoir des pêcheurs qui vont pouvoir à nouveau capturer du poisson sur les rives de ce fleuve et jusque dans la mer morte. La vie du fleuve est plus forte que la mort de cette mer. La vie du Saint-Esprit, elle est plus forte que n'importe quelle source ou menace de mort qui peut peser sur nos vies. Lorsque le fleuve de vie arrive, il emporte tout. Mais quand je dis il emporte tout, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est attaché au péché, tout ce qui est attaché à la mort, tout ce qui est attaché à détruire nos âmes. Lorsque le fleuve passe, c'est le grand nettoyage qu'il fait. Cette image de ce fleuve, il y en a un autre qu'il a eu aussi, c'est l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse. Dans ce livre-là, finalement, ça, on trouve des parallèles avec ce qui se passe dans le livre d'Ézéchiel, parce que Jean, lui aussi, va prophétiser des jugements, de la même manière qu'Ézéchiel a prophétisé des jugements sur le peuple d'Israël. Mais de la même manière que les jugements que prononçait Ézéchiel n'étaient pas définitifs, et que derrière il y avait quand même des images de vie et de restauration, c'est ce qu'on trouve dans l'Apocalypse de Jean. Et dans son dernier chapitre, au chapitre 22, dans les versets 1 et 2, Jean est en train de contempler là, cette vision que Dieu lui donne, et il a cette même image là, du fleuve qui sort du trône de Dieu. Dans l'Apocalypse 22, à partir du verset 1, Jean nous dit ceci, « Puis il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Voilà ce qu'a vu l'apôtre Jean. Un fleuve là, qui sortait du trône de Dieu, et le trône de Dieu, il était au cœur même de la cité céleste. C'est la même image que celle du temple là au centre de Jérusalem, l'endroit au cœur de la cité où Dieu résidait. C'est là où la présence de Dieu se tenait. Et là, au sein de la nouvelle Jérusalem, le trône de Dieu est au centre de cette nouvelle Jérusalem, et de ce trône coule le même fleuve de vie. Et vous voyez que la description, elle est pareille, c'est une eau qui est limpide, une eau qui est... C'est pas une eau polluée, une eau boueuse, une eau qu'on hésiterait à boire. C'est une eau qui est tellement propre qu'on a juste envie d'une seule chose, c'est d'aller puiser dedans pour boire direct. Et cette eau, elle a les mêmes effets que celle qu'a vu Ézéchiel. Vous voyez, au bord de ce fleuve-là qui vient du trône de Dieu, poussent des arbres fruitiers, mais pas n'importe quel arbre fruitier. C'est l'arbre de la vie. L'arbre de vie qui nous a dit qu'il produit 12 fois des récoltes. En gros, ça veut dire que c'est continuellement, tous les mois, il y a toujours du fruit sur cet arbre-là. Certains de nos arbres fruitiers parfois donnent une ou deux récoltes dans l'année. Là, c'est en continu. Lorsqu'on est au bord du fleuve de Dieu, alors il y a toujours du fruit qui pousse. Il y a toujours cette vie qui se déverse, cette vie qui continue à couler dans nos veines, cette vie qui remplit tout l'arbre là pour lui donner le feuillage le plus éclatant qui soit. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de restriction d'eau. Il n'y a pas de risque de sécheresse. Il n'y a pas de risque qu'à un moment, la rivière soit à sec. Ça, c'est ce qui arrive dans le monde. C'est ce qui arrive parce qu'on est exposé à toutes sortes d'autres éléments. On a trop de soleil, on a trop de retenue, on a toutes sortes de choses sur lesquelles qu'on peut accuser qui font qu'on se retrouve par moments à court d'eau. Et on le connaît de plus en plus chaque été. Mais dans le royaume de Dieu, ça n'existe pas. Dans le royaume de Dieu, ce fleuve d'eau vive qui vient du trône de Dieu, il coule continuellement. Il continue d'irriguer ses rives tout au long de l'année. Et tout ce qui se trouve sur les bords de ce fleuve, ben, c'est rempli de vie et ça porte du fruit. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous aussi, que nous puissions nous tenir sur les bords du fleuve et nous laisser remplir par cette eau pour pouvoir nous aussi porter du fruit. Et c'est quoi ce fruit que nous devons porter? Vous le connaissez probablement. Il est décrit entre autres dans Galates au chapitre 5 au verset 22. Dans Galates 5, verset 22, il nous est dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Vous avez une liste là avec 9 qualités dans ce fruit. Et comme certains pasteurs aiment bien le faire remarquer, il n'y a pas marqué les fruits de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas plusieurs fruits et puis vous en choisissez un. Non, le fruit, c'est tout ça à la fois. Ça, c'est les différents quartiers de l'orange. Il y en a un, c'est la foi, l'autre, c'est l'amour, l'autre, c'est la joie, etc. Mais si vous ne les avez pas tous, vous n'avez pas un fruit complet. Et lorsque le Saint-Esprit travaille en nous, il travaille à produire tous ces aspects dans nos vies. On ne peut pas dire, moi, je produis le fruit de l'esprit, je suis toujours joyeux. Bon, par contre, la maîtrise de soi, ce n'est pas ça. Bon, ok, il y a un début, mais il faut quand même travailler à faire grandir le reste du fruit aussi. Lorsque le Saint-Esprit se déverse en nous, c'est pour faire pousser le fruit en entier. C'est pas un fruit difforme là avec juste un côté qui a gonflé puis tout le reste qui est flétri, ratatiné, non. C'est pas l'image qui nous a été donnée là du fleuve lorsqu'il coule, lorsqu'Ézéchiel le voit couler ou lorsque Jean le voit couler, il voit vraiment des arbres qui portent de beaux fruits, des fruits auxquels il manque rien, ils sont pas coupés au milieu avec juste une moitié du fruit et puis l'autre qui est tombé par terre, et c'est pas des fruits qui ont pourri sur l'arbre. Non, c'est des fruits qui sont bien développés. Et pour nous, ça veut dire un fruit qui présente toutes ces qualités-là. C'est tout ça que Dieu cherche dans nos vies. C'est tout ça que Dieu veut produire dans nos vies. Parce que ce fruit-là, rassurez-vous, ce n'est pas par vous-même que vous allez arriver à le produire. Ce n'est pas en faisant plus d'efforts qu'on va arriver à être plus joyeux, qu'on va arriver à avoir plus d'amour, qu'on va arriver à être plus patient. Ce n'est pas en nous imposant une discipline plus dure qu'on va arriver à produire tout ça. Non, ce qui produit tout ça, c'est l'eau de l'esprit. C'est pour ça que ça s'appelle le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de l'homme, le fruit de notre nature. Non, c'est le fruit de l'esprit. L'esprit de Dieu en nous, c'est lui qui produit cela. Et la seule façon pour que cet esprit produise ça en nous, ce n'est pas qu'on fasse plus d'efforts, c'est simplement qu'on se laisse remplir par cette eau-là, qu'on se tienne sur les bords du fleuve. C'est lorsque on s'approche que là, on peut plonger les racines et absorber toute cette eau. Il y a quelque temps, lorsqu'on était on était dans la voiture avec mes filles, et puis à un moment, on voyait sur la carte qu'il y avait dessiné qu'il y avait une petite rivière qui passait pas loin. Mais la rivière, depuis la route, on la voyait pas. J'aurais posé la question, là, en regardant par là-bas, d'après la carte, il y a une rivière là-bas. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle y est, cette rivière? À quoi est-ce qu'on peut le remarquer? Vas-y, plus fort. Exactement. En fait, vous aviez des champs qui avaient l'air assez... Enfin, pas forcément trop... Ils étaient irrigués encore, ça va, donc c'était pas tous desséchés, mais au milieu de tous ces champs, vous aviez juste une sorte de rangée d'arbres, des buissons, des arbres plus hauts d'un seul coup, qui poussaient là, et qui avaient l'air de délimiter une certaine ligne là, qui circulait au milieu de tout ça. Et c'était le signe évident qu'à cet endroit-là, il y avait de l'eau qui coulait. Lorsque vous regardez une carte, c'est ça qu'on remarque en général. Là où l'eau est cool, vous avez la végétation qui pousse à cet endroit-là. Peut-être qu'un petit peu plus loin, il n'y a plus rien. Mais à cet endroit-là, on peut vivre. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les photos satellites de l'Égypte. Peut-être ceux qui ont étudié les Égyptiens au collège, tout ça, vous avez vu un peu ça. Et à quoi il ressemble le pays de l'Égypte? C'est tout jaune partout. C'est du désert quasiment partout. Et il y a juste au milieu, vous avez ce triangle là au delta du Nil, plus la ligne là qui correspond à tout le fleuve. Et il y a juste cette portion là qui est un peu verte sur la photo. Pourquoi? Parce que c'est là que le fleuve coule et c'est là que la végétation peut pousser. Dès que vous vous éloignez de ça, vous vous retrouvez au milieu du désert. Et là, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien. Il n'y a que de la végétation qui est desséchée si des fois le fleuve était passé par là dans le passé. Mais même au bout d'un certain temps, vous ne trouvez même plus ça. Les éléments se chargent de tout balayer, tout détruire. Et il n'y a même plus de traces qu'à un moment, il y a pu y avoir des arbres ou de la verdure à cet endroit-là. Par contre, là où se trouve le fleuve, ou là où vous avez un oasis au milieu du désert, là, d'un seul coup, ça se met à pousser, ça se met à fleurir, ça se met à porter du fruit, alors que tout autour, tout est desséché, tout est mort. Nous nous trouvons dans un monde où règne la mort. Ce monde, il est désertique, spirituellement parlant. Lorsque vous vous promenez dans la ville, vous n'allez pas voir beaucoup de vie spirituelle se manifester. Parce que c'est comme si nous étions au milieu du désert, là. Mais nous pouvons quand même porter du fruit et être verdoyants au milieu de ce désert. Parce que spirituellement, là où nous tenons, c'est sur les bords du fleuve. Ce fleuve-là, il a été prophétisé dans l'Ancien Testament, il a été annoncé dans le Nouveau Testament. Et Jésus lui-même a fait un petit peu le bilan de tout ça dans Jean au chapitre 7, si on lit les versets 37 à 39. C'était le dernier jour de la fête là, à Jérusalem, hein, une journée où ils célébraient notamment comment Dieu avait abreuvé son peuple. Il y avait toute une cérémonie où les sacrificateurs allaient déverser de l'eau. Et là, au milieu de tout ça, Jésus s'est levé. Donc Jean chapitre 7, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Et donc là, l'évangéliste nous rapporte que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria: « Si quelqu'un a le soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Et là, l'apôtre ajoute: « Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Jésus a utilisé à plusieurs reprises cette image là de l'eau vive dont nous devions nous abreuver. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il dit là? C'est que cette eau vive, ensuite, elle va se déverser de nous aussi. Dans le Nouveau Testament, Paul nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et si notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le fleuve qui va couler du temple. De la même manière qu'Ézéchiel l'a vu. Lorsque Jésus s'adresse à la femme samaritaine, il utilise aussi cette même image. Il dit: ceux qui boivent de l'eau de ce puits-là, ils auront toujours soif. Parce que ça, c'est un besoin physique. On ne peut pas boire suffisamment un jour pour que ça nous tienne toute la vie. Par contre, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, et là, il faisait allusion encore à cette eau vive de l'esprit, alors là, il n'aura plus jamais soif. Et puis, il nous le dit là, c'est des fleuves d'eau vive qui vont couler de son sein. Ce fleuve auquel nous devons nous abreuver, c'est pas simplement une petite gorgée comme ça qu'il faut prendre. Il faut vraiment se laisser remplir par toute cette eau pour qu'elle puisse à son tour se déverser derrière et inonder tous ceux qui nous entourent autour. Chacun d'entre nous, nous sommes simplement un canal d'irrigation. Vous avez ce fleuve là qui coule en plein milieu, et puis chacun d'entre nous, on doit être connecté au canal à un moment pour que l'eau puisse commencer à couler au travers de nous, et puis derrière elle continue à se répandre et elle apporte la vie encore plus loin. Si les apôtres, les disciples étaient restés à Jérusalem et puis qu'ils avaient gardé pour eux ce qu'ils avaient reçu de Christ, le fleuve, il serait resté au milieu de Jérusalem, la partagé entre quelques-uns, il n'aurait pas pu inonder la terre entière comme c'est le cas aujourd'hui. Mais parce que les apôtres se sont laissés remplir. On l'a lu ensemble, hein, ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est ça. Jean le dit, Jésus parlait de l'Esprit qui n'avait pas encore été répandu parce que Jésus n'était pas encore remonté au ciel. Jésus était encore là et l'Esprit ne serait envoyé qu'après son départ. C'est ce qu'ont vécu les apôtres là, le jour de la Pentecôte. Et lorsqu'ils ont reçu ce Saint-Esprit, qu'ils ont été remplis, plongés dans l'Esprit de Dieu, ça s'est répandu à l'extérieur. C'est que d'un seul coup, ils ont ouvert la porte. Eux qui étaient enfermés dans la chambre haute, là, avec les portes, les volets fermés, de peur que les Juifs viennent les attaquer ou qu'ils viennent se faire arrêter, parce que, voilà, vu ce qui s'était passé avec Jésus, il ne faisait pas forcément bon être un disciple de Christ. Là, d'un seul coup, lorsque ce fleuve se répand parmi eux, là, ça se manifeste extérieurement. Ils se mettent à parler en langue, ils sortent dans la rue d'un seul coup, et puis, là, vous avez Pierre qui se met à prêcher, à annoncer l'évangile devant toutes ces personnes-là, des personnes de toutes sortes de langues. On a un petit peu toutes les langues là, de l'Empire romain qui se retrouvent représentées, et en plus, par l'action du Saint-Esprit, chacun trouve de quoi écouter dans sa propre langue. Oui, lorsque le Saint-Esprit arrive et qu'il agit en nous, c'est pour se répandre à l'extérieur. Les apôtres l'ont vu se manifester ce jour-là, et puis ils l'ont vu encore et encore. Lorsque vous lisez le récit des actes des apôtres, c'est ça en fait. voyez, dans les premiers versets, vous avez le rappel de ce que Jésus leur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est l'introduction qui vous explique ce qui va se passer dans tout le livre derrière. Parce que derrière, vous voyez que lorsque le Saint-Esprit arrive, comme Jésus l'avait promis, ben, il commence à évangéliser tout Jérusalem. Puis après, ils évangélisent même un peu plus large que Jérusalem, dans le reste de la Judée. Ils vont même jusqu'en Samarie. Et puis après, vous avez les voyages de Paul et puis tous ces voyages missionnaires qui commencent à apporter l'évangile jusqu'aux confins de l'Empire romain. Oui, lorsque le Saint-Esprit arrive et qu'il agit, il apporte la vie et il apporte une vie qui est contagieuse. D'habitude, c'est plutôt la maladie qui est contagieuse. C'est la mort qu'on craint de voir se transmettre d'une personne à l'autre. Lorsqu'on a traversé la pandémie, c'est ça, c'était celui qui est malade, il faut l'isoler, surtout pour pas que ça puisse se passer aux autres. Imaginez si on avait un virus inverse qui nous donne une bonne santé et puis quand on est en contact avec les autres, on les contamine et ils deviennent en bonne santé aussi. Ce serait formidable, non? Mais c'est ça que fait le Saint-Esprit. Lorsqu'on se laisse remplir, il nous redonne une santé spirituelle qu'on n'avait pas, il nous redonne une vie spirituelle qu'on n'avait pas et il nous amène à la partager autour de nous pour contaminer les autres autour de nous et leur apporter la vie à eux aussi. Alors je pense que si Dieu m'a mis à cœur ce matin de changer le message que j'avais pour partager avec vous ces pensées-là, c'est parce que c'est ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Il veut qu'on se laisse remplir par cet esprit. Il veut qu'on se laisse vraiment transformer, remplir jusqu'à déborder, pour ensuite pouvoir inonder ceux qui nous entourent. Que ceux qui nous entourent puissent dire « Mais tu fais que ça, nous parler de Dieu ?» Oh, pas dans un sens négatif, on va dire, hein, qu'on n'avait pas... Les forcer, les braquer, mais qu'ils puissent pas passer à côté, simplement. Que lorsqu'une personne vous côtoie, même ne serait-ce que quelques minutes, elle soit touchée de se dire, mais il y a quelque chose là. Il y a quelque chose de plus, j'ai envie d'en savoir plus, mais qu'est-ce qui fait que tu es si différent de moi? C'est pas ma couleur de peau, c'est pas mon métier différent, c'est pas mon origine, c'est pas mon éducation, non. Ce qui fait la différence, c'est l'Esprit de Dieu en moi. Nous avons tous été plongés dans un même esprit. Ce même esprit a été répandu sur chacun d'entre nous. Et honnêtement, avant même d'être baptisés du Saint-Esprit, nous avons tous reçu cet esprit en nous. Parce que lorsque nous prenons cette décision de nous engager avec Dieu, lorsque nous prenons cette décision de demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour toutes nos fautes, alors déjà Dieu opère cette régénération en nous. Déjà Dieu apporte cette vie en nous. Mais il faut aller encore plus loin. Il ne faut pas s'arrêter aux chevilles. Il faut aller plus loin, aller jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout au milieu du fleuve. Il faut aller jusqu'à se laisser emporter par le fleuve. Et là, on prend part à cette vie formidable qui se répand partout dans tout le pays. Oui, que Dieu nous donne vraiment d'être vraiment connectés à ce fleuve pour que cette vie puisse se répandre en nous, puisse nous raviver nous-mêmes déjà premièrement, mais puisse ensuite se répandre à l'extérieur pour répandre la vie tout autour de nous. Amen. Seigneur, je te bénis pour ce fleuve que tu as répandu parmi nous, Seigneur. Je te bénis pour cet esprit que tu as déversé sur chacun d'entre nous. Merci parce que, à la Pentecôte, tu as manifesté quelque chose de plus grand, quelque chose que les prophètes avaient annoncé mais que personne n'avait compris jusque-là. Quelque chose qui dépassait l'entendement des disciples. Quelque chose qui a surpris tous ceux qui étaient autour d'eux. Tu as déversé sur eux une puissance de vie qui dépassait toutes les attentes de chacun. Ô Seigneur, vraiment que cet esprit se déverse encore sur chacun d'entre nous, Seigneur. Que tu puisses nous remplir au plus profond. Que tu puisses nous remplir jusqu'à déborder. Et que ton esprit puisse trouver en chacun d'entre nous un canal qui va pouvoir lui permettre d'aller encore plus loin. D'atteindre des personnes encore plus loin, d'atteindre encore plus de cœurs, encore plus d'âmes qui ne t'ont pas encore rencontrées, Seigneur. Oui, remplis-nous de ton esprit. Déverse-toi en nous, Seigneur mon Dieu. Et que cet esprit se répande. Dans notre église, dans notre quartier, dans notre ville, dans tout le département, tout le pays et dans ce monde entier, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses te servir de chacun d'entre nous pour répandre ce fleuve de vie, Seigneur, et manifester ta gloire. Sois loué, Seigneur mon Dieu, sois béni. Amen.